Je vous invite à la prière avant la prédication. Notre Père, merci parce que c'est toi qui es le maître de toutes choses. Et c'est toi qui es notre maître. Et heureusement, heureusement que c'est toi qui diriges. Parce que si les choses ne tenaient qu'à nous, ce serait encore plus la catastrophe. Nous voulons nous laisser guider par toi, nous laisser guider par ta parole. Merci pour le témoignage et les encouragements que Géraldine nous a partagés. Nous voulons continuer à nous laisser interpeller. Nous voulons continuer à être à ton écoute. On te demande de bénir le temps des enfants avec les moniteurs, leur temps ensemble pour découvrir encore ta parole. Et nous aussi, nous nous remettons à toi pour la suite de ce culte où nous allons encore lire ta parole et ouvrir notre cœur également. En tout cas, viens ouvrir notre cœur pour recevoir, pour continuer de recevoir ce que tu veux nous dire et nous apprendre. Amen. Alors, ce que j'ai préparé ce matin va directement dans la suite de ce que Géraldine a partagé. Alors, c'est pas du tout... il ne faut pas le prendre au second degré. Je le dis, voilà, il faut juste le prendre au premier degré. Je pense même qu'on pourrait repartir et on est déjà bien encouragé. voilà, donc moi, j'ai été très encouragé par ce que Géraldine a partagé. Et voilà, j'aimerais aussi partager quelque chose qui a été vécu également au château de Villiers. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment dans la continuité. Voilà, donc au démoins, on va au château de Villiers, hein, à peu près une fois par mois, une fois toutes les 6 semaines. Et on réunit, alors nous, c'est l'après-midi. Tu as parlé du soir. Nous, cette fois-ci, c'était l'après-midi. Et on réunit à peu près entre 6 et 10 personnes, 10 résidents. Et on leur propose simplement un temps d'écoute, un temps de lecture de la Bible, un temps d'échange, un temps de prière. Et voilà, on le dit souvent à chaque fois qu'on en parle, hein, lorsque nous revenons du château de Villiers, eh bien nous avons toujours l'impression d'avoir reçu autant, voire plus, que ce que nous avons apporté. Alors cette semaine, nous avons choisi le thème de la liberté. C'est ce thème que je vous propose d'aborder avec vous également. Ce matin, en faisant un peu écho à ce que nous avons vécu aussi au château d'Auvilliers. Alors justement, au château, nous avons au moins introduit le sujet de la liberté avec un petit livre jeunesse qui s'intitule « Au nom Georges ». C'est un livre que j'ai déjà eu l'occasion de présenter lors d'un culte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a 5 ans. Alors vous n'étiez peut-être pas tous là. Qui connaît ? Ah ben, c'était un culte Covid peut-être, je ne sais plus. Parce qu'il y a 5 ans, c'était à peu près la période 2020-2021. Alors je vais vous lire ce livre, il n'est pas très long, hein, mais il est très, comment dire, très pertinent. Alors, au nom Georges, tu peux passer la diapo et les diapos et je vais lire. Alors je vais décrire aussi les images, parce que voilà, comme il y a un peu de lumière, on ne peut pas exactement voir avec tous les détails, et aussi pour ceux qui écoutent le culte en audio. Alors voilà, on a Harry. Harry sort faire un tour. « Tu promets d'être sage, Georges ?» demande Harry. Et Georges, c'est le petit chien. Et Georges répond « Oui !»« Oui, répond Georges, je serai très sage. » Page suivante. « J'espère que je serai sage, pense Georges. » Georges voit quelque chose dans la cuisine. Un gâteau. « J'ai dit que je serai sage, pense Georges, mais j'adore les gâteaux. » Que va faire Georges ? « Oh non, Georges !» Et on voit sur l'image qu'il mange tout le gâteau. Qu'a vu Georges cette fois ? Ses chats. J'ai dit que je serais sage, pense Georges. Mais Georges adore jouer avec chats. Que va faire Georges ? Oh non, Georges ! Et on voit qu'il court après le chat et qu'il fait tomber plein de choses dans la maison. Qu'a vu Georges cette fois ? Un joli parterre de fleurs. J'ai dit que je serais sage, pense Georges. Mais j'adore faire des trous dans la terre. Que va faire Georges ? Oh non, Georges ! Et il fait des trous dans la terre et le parterre de fleurs est complètement détruit. Harry est de retour, donc le maître. Salut Harry, content de te revoir. Georges, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as tout massacré. Et comment diable as-tu fait pour manger un gâteau tout entier ? Donc le maître constate les dégâts. J'ai promis d'être sage, pense Georges. J'ai espéré être sage, mais je ne l'ai pas été. Que va faire Georges maintenant ? Je suis désolé, dit Georges. Pour me faire pardonner, je te donne mon jouet préféré. Merci, Georges, dit Harry. Que dirais-tu d'une petite promenade ? Super. Georges adore sortir. Il y a tant de choses à voir et à faire. Donc ils sortent dehors. Oh oh, Georges a vu un gâteau. Va-t-il le manger ? Non. Georges passe son chemin. Bravo, Georges. Georges voit un joli parterre de fleurs. Va-t-il le massacrer ? Non. Bravo, Georges. Georges n'essaye même pas de poursuivre chat. Même chat est un peu surpris. Quelque chose sent particulièrement bon. Qu'est-ce que ça peut bien être ? C'est une poubelle. Il n'y a rien que Georges aime plus que les poubelles. Que va faire Georges ? Georges ? Et c'est la fin du livre. Que va faire Georges ? Alors au début de ce livre, Georges le chien promet d'être sage. Et il n'y arrive pas. Il mange le gâteau, il joue avec le chat, il met le bazar dans la maison, il déterre les fleurs du jardin. Et lorsque le maître de la maison revient, le chien, Georges, dit ceci. C'est mon premier point. J'ai promis d'être sage, j'ai espéré être sage, mais je ne l'ai pas été. J'ai demandé aux participants du château de Villiers s'ils avaient déjà vécu ce genre de situation. Et ils ont tous répondu oui, promis d'être sage et ne pas respecter cette promesse. Nous avons tous une idée de ce qui est bien ou mal. Nous avons une idée de ce qui offense notre prochain ou ce qui l'encourage. Nous avons une idée de ce qui peut nuire aux autres ou faire du bien aux autres. Nous avons une idée de ce qui est égoïste ou ce qui est généreux. Et pourtant, nous n'arrivons pas toujours à faire ce qui nous semble être bien. Il nous arrive même trop souvent de faire le mauvais choix. Alors dans la suite du livre, Georges le chien arrive à se contrôler. Il se contrôle jusqu'à ce qu'une nouvelle situation se présente, jusqu'à ce qu'il voit une poubelle. Et l'auteur nous précise, il n'y a rien que Georges aime plus que les poubelles, dans le sens aimer jouer avec les détritus. Et la question nous est posée, va-t-il pouvoir résister ou pas ? Nous ne connaissons pas la suite. C'est un peu une question que nous pouvons nous poser en fait pour nous. Et nous, arrivons-nous à résister face aux tentations ? Nous avons posé cette question aux participants du château d'Auvilliers et ils ont été très honnêtes dans leurs réponses. Ils ont dit non, ils n'arrivent pas toujours à résister. Ils n'arrivent pas toujours à être, entre guillemets, sages, à ne pas se fâcher, à ne pas faire trop de bruit le soir, à l'heure du coucher. par exemple. Alors comment faire ? Comment faire pour bien agir si nous n'arrivons pas à nous contrôler ? Alors l'un des participants a dit « Il faut se contrôler, mais ce n'est pas facile. » Il faut se contrôler, mais ce n'est pas facile. De nos jours, dire que nous devons apprendre à nous contrôler, c'est un peu ringard. Nous vivons plutôt dans une époque où il faut profiter et suivre nos envies. La liberté consisterait à faire ce que nous voulons quand nous voulons. Tout est mis en place pour que nous puissions accéder rapidement à ce qui nous fait envie. La maîtrise de soi, ce n'est pas du tout à la mode. Pourquoi se priver quand le plaisir est à portée de main ? Pourquoi penser aux autres alors que les gens sont de plus en plus ingrats ? Pourquoi être trop gentil dans un monde où si je suis trop gentil, je me fais marcher dessus ? Toutes ces idées circulent dans notre environnement. Mais lorsqu'une société met en priorité ses envies et sa pseudo-liberté au détriment du bien commun, cela peut faire beaucoup de dégâts. Si l'on n'apprend pas à des enfants à gérer la frustration, si on ne leur apprend pas à dire merci, à dire s'il te plaît, à se contrôler, quels adultes deviendront-ils ? Et les adultes, sont-ils dispensés de cet apprentissage ? Tout à l'heure, j'ai dit que l'auteur du livre laisse la fin un peu en suspens, suspense, et que la dernière page du livre se terminait par cette question. Qu'est-ce que Georges va faire ? Alors même si l'auteur ne nous raconte pas le fin mot de l'histoire, l'auteur nous laisse une citation qui nous incite à penser que Georges aura quand même du mal à se contrôler. Voici une citation qui est inscrite sur la dernière page du livre. « Penser est facile, agir est difficile. Ce n'est pas par la satisfaction du désir que s'obtient la liberté, mais par la destruction du désir. Nul homme n'est libre s'il ne sait se maîtriser. » Et c'est une citation manifestement de Épictète, un philosophe du 1er siècle. Alors j'ai fait des recherches sur cette citation d'Épictète. Il semblerait que ce philosophe de l'Antiquité n'a pas laissé d'écrit, mais que nous connaissons sa pensée à travers les écrits de son élève Arien. Et cette citation serait plutôt un résumé de sa pensée. Quoi qu'il en soit, cette idée de la liberté est intéressante. Selon cette citation, la liberté ne consiste pas à faire tout ce que nous désirons, mais elle consiste à savoir contrôler ses désirs. Épictète, avec les autres philosophes stoïciens, avait cette conscience que si l'être humain suivait ses désirs sans les maîtriser, il serait esclave de ses désirs. C'est tout le contraire de la liberté. Et la Bible va encore plus loin sur cette question de l'esclavage et de la liberté. La liberté consiste à suivre non pas les désirs humains, mais les désirs de l'Esprit de Dieu. Et de manière paradoxale, plus nous suivrons les désirs de Dieu, plus nous serons humains, plus nous ferons preuve d'humanité. C'est mon deuxième point. Plus nous suivrons les désirs de l'Esprit de Dieu, plus nous ferons preuve d'humanité. Suivre Dieu, ce n'est pas renier notre identité, ce n'est pas renier notre humanité, ce n'est pas non plus renier notre personnalité. Suivre Dieu, c'est devenir encore plus humain. Je vous propose de lire le passage biblique que nous avons lu avec les participants du château d'Auvilliers. Il s'agit de la lettre de Paul aux Galates, le chapitre 5. Alors nous n'allons pas tout lire, nous allons lire quelques versets de ce chapitre 5, un peu plus que ce que j'ai lu avec les résidents du château. J'ai lu quelques versets et j'ai résumé tout le reste. Alors commençons par le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. La première chose que nous apprenons donc, c'est que pour être libre, il faut être affranchi. La Bible présente Jésus comme étant le libérateur. Le seul qui peut nous libérer, c'est celui qui est déjà libre. Ensuite, des versets 13 à 17, l'apôtre Paul dit ceci. « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de notre propre nature. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. » Dans la Bible, Jésus nous libère de l'esclavage du péché. Il nous libère de nos désirs. Et pour nous aider à accepter ou à adopter une nouvelle vie, il nous envoie le Saint-Esprit. L'auteur oppose les désirs humains et les désirs de l'Esprit. Les désirs humains nous poussent à être centrés sur nous-mêmes, alors que les désirs de l'Esprit nous poussent à servir les autres. Dans la suite du texte, l'apôtre Paul parle en des termes encore plus concrets. Il donne des exemples de ce que produit la nature humaine. Ensuite, il décrit le fruit de l'Esprit. Je vous lis maintenant les versets 19 à 22. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà dit, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Avez-vous remarqué un détail très intéressant dans ce texte de Paul ? Il parle des œuvres de la nature humaine au pluriel. Mais il parle du fruit de l'esprit au singulier. Il y a plusieurs œuvres humaines, de la nature humaine, mais un seul et unique fruit de l'esprit. Concentrons-nous sur ce fruit. Relisons le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Pourquoi l'apôtre Paul parle-t-il du fruit de l'esprit au singulier, tout en faisant une liste de 9 vertus? Il y a 9 vertus, mais tout cela représente un seul fruit de l'esprit. Ne devrait-il pas parler des fruits de l'esprit au pluriel? Je me suis posé la question et je me suis demandé s'il n'y avait pas une erreur de traduction. Alors j'ai vérifié dans le texte grec, mais c'est bien au singulier. Il y a donc une leçon à tirer de ce singulier. Il y a bien un seul et unique fruit de l'esprit. Un seul fruit, on peut dire avec plusieurs saveurs, mais un seul fruit. Ce fruit est au singulier parce qu'il forme une unité. Il s'oppose à la division qui caractérise les œuvres de la nature humaine. Et si l'on s'intéresse aux différentes saveurs de ce fruit de l'esprit, nous remarquons qu'il y a un point commun. Le fruit de l'esprit concerne l'unité. Cet unique fruit de l'esprit concerne l'unité. Ce fruit, c'est la recherche de l'unité. C'est agir pour l'unité. Pour une vraie unité, nous avons besoin des 9 ingrédients. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Pouvons-nous aimer sans être patient? Pouvons-nous aimer sans être patient? Pouvons-nous être acteurs de paix sans la bonté? Pouvons-nous être bons sans être bienveillants? Etc. Dans cette liste des 9 vertus, tout est lié. Tout est lié. Et nous pouvons ainsi noter que toutes ces vertus sont des vertus relationnelles. Le fruit de l'esprit, ce sont des relations saines. Même la joie est une vertu relationnelle, car cette joie désigne la joie partagée, la joie de servir son prochain. Parce que si nous ne servons pas notre prochain avec joie, mais avec obligation, est-ce de l'amour sincère ? Le fruit de l'esprit, c'est ce que nous sommes appelés à produire, non pas par nos propres forces, mais par les ressources que Dieu nous offre, parce que Jésus nous libère et Jésus nous envoie son esprit. Alors pour conclure, j'aimerais relever que vivre l'unité dans l'amour, c'est le plus grand défi auquel Dieu nous appelle. Voici ce que l'apôtre Paul dit par ailleurs, en 1 Corinthiens 13, verset 3. « Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, dans le sens si je sacrifie tout ce que j'ai, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Le plus grand défi de notre siècle, ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas non plus la pauvreté ou la misère, ce n'est pas la débauche, ce n'est pas la drogue ou les réseaux sociaux. Le plus grand défi de ce monde, depuis toujours, c'est nous-mêmes. C'est notre propre nature, la nature humaine, incapable d'aimer comme il faut, incapable de vivre pleinement l'unité et la solidarité. Commençons alors par une prise de conscience personnelle. Peut-être que mon voisin a besoin d'apprendre à aimer plus que moi. Mais peut-être que finalement, je ne suis pas meilleur. Qui suis-je pour m'auto-évaluer meilleur que lui ? En travaillant sur ce texte de la lettre de Paul aux Galates, Dieu m'a redit quelque chose que je savais déjà. Il faut que j'arrête de me focaliser sur ce qui ne va pas chez les autres. Jésus m'invite à d'abord m'occuper de la poutre qui est dans mon œil, avant de retirer la paille de l'œil de mon frère ou de ma sœur. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons un libérateur. Jésus nous libère de l'esclavage du péché. Il nous rend libres pour porter le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Si Jésus nous rend libres pour porter ce fruit, alors il y a de l'espoir. Dieu est souverain, il agit encore dans ce monde et il peut agir en nous. L'unité peut gagner du terrain à travers chacun de nous. L'amour peut grandir et Georges peut ne pas jouer avec la poubelle. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci parce que tu nous offres gratuitement ton esprit, qui est la présence même, qui est ta présence même en nous, parmi nous. Merci parce que, comme je l'ai encore exprimé tout à l'heure, cela ne dépend pas de nous, et heureusement. Merci parce que tu es souverain dans notre vie et dans ce monde. Sinon, ce monde serait déjà effondré à cause de l'être humain. Merci parce que tu nous libères, tu nous donnes cette espérance que nous attendons un monde réunifié avec toi. Et en attendant, nous vivons ici-bas avec l'aide de ta parole, de l'Église, de ton esprit. Alors, aide-nous à progresser, à grandir encore, à te laisser toute la place, à être des témoins joyeux. Amen.